Vous écoutez France Culture, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Mignier.
Alors aujourd'hui, voilà, je farfouille mes notes. Le Brexit, quelle bonne idée.
Oui, quelle bonne idée.
Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Et en tout cas, un an après l'ouverture des négociations sur le Brexit, c'est une victoire de Theresa May face à son Parlement, un vote présenté comme crucial alors que l'Union européenne presse le Royaume-Uni de faire des propositions, je cite, réalistes. Bonjour Pauline Schnapper.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être au téléphone avec nous. Vous êtes professeure de civilisation britannique à Paris 3. Alors, la première ministre britannique, Theresa May, a réussi à faire rejeter l'amendement de ce qu'on appelle les rebelles conservateurs qui voulaient un droit de veto, hein, tout simplement des députés sur l'accord. Elle écarte donc momentanément le risque de mise en minorité et d'un revirement anti-Brexit, mais elle reste pressée de part et d'autre par les pro-Brexit les plus durs pour ne rien céder et par l'Union européenne en ce moment pour formuler des propositions donc réalistes pour la deuxième phase des négociations, c'est-à-dire les relations commerciales Union européenne-Royaume-Uni post-Brexit. C'est donc un répit hein, avant le sommet européen crucial, encore une fois, du 28 juin, mais répit fragile. Theresa May affirmait dimanche qu'un avenir brillant attend le Royaume-Uni après sa sortie de l'UE. Peut-elle d'abord tout simplement éviter que le Brexit ne soit un mirage ou une débâcle? Parce que si on parle de ce vote, il faut dire qu'elle l'a obtenu à l'arraché, hein, Pauline Schnapper, c'est 319 voix contre 303 quand même.
C'est une victoire à l'arraché et qui ne résout rien, si vous voulez. Ça lui permet de gagner du temps. Elle a réussi à éviter qu'il y ait une rébellion de suffisamment de parlementaires pour l'abattre sur cet amendement. Mais si vous voulez, ce sont des questions de procédure. Il n'est absolument pas question du fond. Et sur le fond, on est toujours dans la même situation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus ni au sein du cabinet, ni au sein du Parlement sur ce que devraient être ces fameuses relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le Brexit. Donc rien n'est réglé, si vous voulez. Elle gagne du temps. C'est comme ça qu'elle fonctionne depuis des mois maintenant. C'est en gagnant comme ça du temps sur des votes présentés comme cruciaux mais qui finalement ne règlent rien. Ça lui a permis de fonctionner jusqu'à maintenant. Mais il y a un moment où il va bien falloir quand même faire des propositions claires à la Commission européenne. Il va falloir faire des choix et pour l'instant, on n'en est toujours pas là.
Parce que vous dites un vote qui ne règle rien. C'est vrai que du côté des négociations, ça ne fait pas avancer les choses. Cependant, au regard, disons, de l'agitation et puis du risque hein, politique de ces deux dernières semaines, voire derniers mois pour Theresa May et ses fameuses négociations sur le Brexit, si on revient à cet amendement, est-ce qu'elle n'a pas obtenu quand même un vrai répit, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année, au moins, avoir les coudées franches pour négocier, finalement.
Oui, tout à fait. Encore une fois, sur le plan de la procédure parlementaire. Mais un répit pour négocier, encore une fois, ça supposerait qu'il y ait un accord au sein du gouvernement sur ce qu'on va négocier, ce qu'on va proposer et ce qu'on va essayer d'obtenir. Et ça, on ne l'a toujours pas. Donc, les négociations internes, si vous voulez, internes au gouvernement, vont continuer en parallèle à celles qui ont lieu à Bruxelles. Mais pour l'instant, il n'a rien pu se passer à Bruxelles et il ne se passera probablement rien au prochain Conseil européen parce que, précisément, pour l'instant, ce que défend officiellement Theresa May, d'une part, n'est pas forcément suivi par tout le monde dans son gouvernement et, en plus, est rejeté par Bruxelles, par Michel Barnier et la Commission. Donc, pour l'instant, on n'avance pas.
Alors, justement, on va reparler des deux. Ce qu'on a vu tout récemment, c'était hier, c'est une multiplication, on pourrait dire aussi, des concessions ou annonces de la part du gouvernement britannique qui annonce concomitamment, disons, des procédures accélérées aussi simples que possible, dit-il, pour l'enregistrement des citoyens ressortissants Union européenne dès la fin de l'année. Et puis le ministre des Finances, Philippe Admonde, qui demande aussi des discussions sur les services financiers pour maintenir Londres comme capitale mondiale de la finance. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces multiplications d'annonces, là, ces démarches?
Alors, oui, pour l'instant, la dernière idée en date, si vous voulez, parce que on en est au stade où quasiment chaque semaine on a une nouvelle idée. La dernière idée en date, donc, ça serait d'avoir un accord de libre-échange sur les marchandises, sur les biens, donc une espèce de semi-marché unique pour les biens, mais qui ne couvrirait pas les services. Or, les services représentent 80% de l'économie britannique. Donc, c'est ça la dernière proposition d'AV, et ça permettrait, l'avantage, si vous voulez, du côté britannique, c'est que ça permettrait d'échapper au principe de la libre circulation des personnes. Maintenant, toute la question est de savoir si Bruxelles, la Commission, les 27, serait d'accord, parce que ça va quand même un peu à l'encontre du principe qui était de ne pas découper le marché unique. Mais en même temps, c'est vrai que ça aurait des avantages, ça permettrait d'éviter des contrôles à la frontière du jour au lendemain après la période de transition. Donc voilà, est-ce qu'un accord sera possible là-dessus ? Je serais incapable de vous le dire, mais enfin en tout cas, c'est la dernière proposition en date. Et les propositions qui ont été faites sur les droits des citoyens européens au Royaume-Uni vont un peu dans le même sens, c'est-à-dire de facilité, voilà, ce sont des preuves de bonne volonté, disons, qui sont avancées avant qu'on entre vraiment dans le cœur des négociations.
Et qui peuvent passer pour assez sérieuses dans le contexte et non pas comme, disons, des propositions d'un gouvernement aux abois.
Elles me paraissent un peu plus sérieuses que les précédentes sur la façon d'éviter des contrôles aux frontières qui étaient complètement fantaisistes avec des caméras qui seraient capables de repérer ce qu'il y avait dans les camions, enfin des choses qui ne semblaient pas très sérieuses. Là, il me semble que ça allait un petit peu plus, mais encore une fois, il n'est pas évident que du côté européen, ça soit pour autant accepté. Mais disons que c'est un peu plus réaliste, voilà, ouais, que les propositions qui avaient été faites auparavant.
Et alors pour ce sommet européen du 28-29, vous dites qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Cependant, il y a ce gros morceau, si je peux me permettre, que représentent les négociations concernant la frontière irlandaise. Là, hier encore, il y avait le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, qui pressait le Royaume-Uni de faire des propositions et des engagements assez complets. Pour résumer, si aucun accord n'est trouvé sur la frontière, de fait, en fait, l'Irlande du Nord post-Brexit va rester aligné sur les tarifs douaniers de l'Union européenne, donc une frontière nouvelle avec le Royaume-Uni. Qu'est-ce que peut proposer d'ici le 28 le Royaume-Uni sur cette question qui n'a pas avancé ?
Comme vous dites, la question n'a pas avancé et je ne vois pas comment elle pourrait avancer dans la semaine qui vient parce qu'on est pour l'instant dans une situation complètement bloquée à cause du fait que le gouvernement de Theresa May repose sur le soutien des 10 députés unionistes du parti DUP, qui refusent absolument toute idée d'une frontière qui traverserait la mer d'Irlande, si vous voulez. La solution qui est avancée par les Européens et qui paraît une solution de bon sens pour éviter une frontière entre le nord et le sud de l'Irlande, c'est que les contrôles frontaliers se fassent donc non pas entre le sud et le nord de l'Irlande, mais entre l'île d'Irlande prise comme un tout et les îles et la Grande-Bretagne, Angleterre, Écosse et Pays de Galles. Et que donc il y a une espèce de frontière invisible au milieu de la mer d'Irlande. Et ça, c'est totalement... Bon, ça serait la meilleure solution, ça c'est évident, mais c'est totalement inacceptable pour les unionistes d'Irlande du Nord qui ne veulent pas être dans un régime différent de celui du reste du Royaume-Uni. Et c'est inacceptable aussi par le gouvernement britannique parce que les Écossais risqueraient de demander aussi à être exemptés de la sortie du marché unique. Donc, pour l'instant, honnêtement, je ne vois pas comment on peut sortir de cette situation, à moins qu'il y ait un côté qui cède, si vous voulez. Et comme je vois mal les Européens céder là-dessus, voilà, il faudra voir si le gouvernement britannique, à un moment donné, cède, mais ce ne sera pas dans la semaine qui vient, ça c'est sûr.
Oui, parce que s'il cède, automatiquement, à ce que vous dites, il se met en minorité, puisqu'il perd ses 10 députés unionistes. Oui, effectivement.
Absolument.
Et qu'en même temps, l'avancée sur la question irlandaise est un point de départ pour avancer sur les autres questions. Qu'est-ce que pourrait faire alors Theresa May d'un point de vue intérieur si jamais effectivement elle est amenée à perdre ses députés unionistes pour essayer de séduire une frange plus large de ses députés conservateurs ou travaillistes? Elle a beaucoup parlé tout dernièrement de l'avantage des dividendes du Brexit que représenterait le Brexit pour le système de santé britannique.
Oui, non, mais ça c'est sans rapport et c'est de la pure démagogie à propos de pour faire plaisir aux Brexiteuses.
Oui, parce qu'elle a chiffré une proposition dernièrement. Ouais.
Oui, elle n'a pas de solution parce que elle n'a pas de majorité avec les conservateurs et les travaillistes ne voteront jamais pour la maintenir au pouvoir. Donc c'est pour ça que le vote de ces 10 députés d'Irlande du Nord est absolument crucial. Elle ne peut pas y renoncer à moins d'être prête à convoquer de nouvelles élections, mais c'est difficilement envisageable pour l'instant.
Et si on revient à l'impact alors à long terme et au fur et à mesure de la question du Brexit sur ce gouvernement conservateur et la gouvernance de Theresa May. Est-ce que c'est trop dire qu'elle a un parti en décomposition? On voit qu'il y a plusieurs ministres qui ont démissionné, qu'il y a toujours la fronde perpétuelle de Boris Johnson. Est-ce que c'est trop dire qu'il y a un pays relativement déchiré aussi, toujours sur la question?
Alors, je ne dirais pas que c'est un gouvernement en décomposition. C'est un gouvernement divisé, ça c'est clair. C'est un gouvernement où le Premier ministre a peu d'autorité, c'est clair aussi. En revanche, il n'y a pas d'alternative, si vous voulez. Il n'y a pas d'accord au sein du parti pour la remplacer par quelqu'un d'autre. Et donc, elle a une espèce de force, la force des faibles, si je puis dire, qui est que on ne sait pas qui, voilà, on ne sait pas par qui la remplacer. Et il n'y a pas de consensus sur un remplacement. Et donc, c'est un gouvernement qui, vaille que vaille, tient le coup, et malgré son état de faiblesse qui est tout à fait étonnant.
Le gouvernement tient le coup et le pays tient-il le coup? Je fais référence notamment, pas seulement au meurtre de Jo Cox il y a 2 ans, donc la députée britannique juste avant le Brexit, mais aux déclarations d'autres députés ou de la menace grandissante, comme le disait un ministre de l'Intérieur, je crois, du terrorisme d'extrême droite et des députés qui se sentent menacés également, des députés anti-Brexit.
Oui, c'est vrai qu'il y a une ambiance un peu délétère depuis 2 ans. Cela, pour autant, je n'irai pas jusqu'à dire que la menace terroriste d'extrême droite pose vraiment un problème à la démocratie britannique. On n'en est pas là. Mais c'est vrai que le pays, politiquement, est dans une espèce de crise permanente depuis 2 ans, dont il n'est pas prêt de sortir, parce que les négociations sur le Brexit, qui sont fondamentales, vont s'éterniser sous une forme ou sous une autre pendant plusieurs années.
Eh bien voilà, on aura le temps de suivre tout ça. Alors merci Pauline Schnapper.